Du coup, Alice avait aussi une chronique pour nous parler de Perfect Dark.
Ah, t'as spoilé le titre.
Bah oui.
Du coup,
oh, le spoil direct, quoi.
D'ouvrir le placard et de parler du game design d'un jeu qui a marqué mon enfance et de la façon dont il gère la difficulté.
Alors, laisse-moi deviner, donc... Perfect Dark.
Ouais, exactement. Wow.
Oh, oh là là.
Franchement, moi, je penserais pas douter. Hein.
Du coup, pour ceux qui savent pas, c'est la suite spirituelle du célèbre FPS GoldenEye 007, développé par Rare et édité par Nintendo. Du coup, Perfect Dark, lui, il est sorti en 2000, en juin 2000, et il est sorti sur la Nintendo 64 en fin de vie de la console. Donc il a bénéficié de plein d'améliorations, enfin du moteur de son prédécesseur et de plein d'améliorations graphiques, mais aussi d'ajouts niveau gameplay, même si la structure était déjà... globalement présente dans GoldenEye. Cette fois, par contre, on s'attaque à un tout nouvel univers qui a été du coup créé par Rare. Et dedans, on incarne une meuf, cette fois, ça change de James Bond. On incarne Joanna Dark, toujours une agente secrète, qui travaille pour l'Institut Carrington. Et le jeu, il commence par, on nous envoie sauver un scientifique au fond d'un immeuble de la Datadine, une méga corporation.
On incarne une meuf ? Jeu de Wook, vraiment déjà dans les années 2000.
Il y a sûrement Sweet Baby Ink derrière, je
grave.
Pense.
Sweet Baby Ink derrière, ouais, je pense. Détected.
Je boycotte. Je boycotte Perfect Dark.
Et du coup, donc, on va sauver un scientifique dans les labos de la Datadine, qui est une grosse méga corporation aux sombres méthodes, donc corruption, meurtre, expérience scientifique douteuse, etc. Et plus on avance dans le jeu, plus on se retrouve catapulté dans des complots de zinzin avec des enjeux planétaires, puis carrément interplanétaires. Du coup, il y a vraiment plein de trucs. On esquive un robot policier tueur à Chicago, on espionne un complot. Ensuite, on libère un extraterrestre de la zone 51. On va sauver le président des États-Unis dans le Air Force One dans lequel on s'introduit.
Une journaliste,
un
quoi.
Boulot, quoi.
Une journée normale, quoi.
Ouais,
oui,
une journée normale ça, à l'Institut Carrington.
Vous aussi, vous vous réveillez et vous allez chercher un alien dans la zone 51.
Normal.
Ça m'arrive tout le temps, c'est chiant.
Ça s'appelle un mardi.
Incroyable,
hein.
C'est vraiment le...
L'alien de la cave de Kron.
C'est vraiment ultra cool, ultra frais. C'est avec ça que du coup, bah, le... Rare, il permet de réussir à quand même briller, faire oublier le fait que c'est plus la licence James Bond. Du coup, ça permet de dépasser leur prédécesseur. Jusqu'à la fin, on va libérer la Terre d'une menace de destruction totale. Un sacré bordel. Mais du coup, le gameplay, comment ça se présente? Alors, le jeu, il est organisé en missions qu'on doit faire pour avancer dans le scénario, qui sont elles-mêmes divisées en niveaux. Et dans chacun des niveaux, en fait, c'est un tout petit monde. Plus ou moins interconnecté avec des espaces ouverts ou des couloirs. Et dans chacun de ces petits mondes, on doit accomplir une liste d'objectifs pour réussir à terminer le niveau. Et du coup, il y a beaucoup d'approches possibles. Il y en a qui vont faire plus ou moins d'allers-retours, etc. Et il y a quand même de quoi explorer. Il y a souvent pas mal de choses à explorer. Du coup, dedans, on a une seule barre de vie pour le niveau. Elle ne se régénère jamais. On peut, en explorant, bah, du coup, trouver des armes et des boucliers qui vont permettre de compléter une barre qui est juste en dessous de la vie. Mais ça ne se cumule pas. Et si on meurt, on doit recommencer tout le niveau. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de sauvegarde. Et au niveau des armes, il y a beaucoup d'armes différentes, beaucoup plus que dans GoldenEye. Et chacune d'entre elles a un mode secondaire qu'on peut activer, qui va lui donner des nouvelles fonctionnalités. Donc sur les pistolets de base, ça peut être juste le mode secondaire, c'est le coup de crosse, par exemple. Mais sur d'autres armes plus avancées, on peut les lancer, ça devient une mine de proximité, mais du coup, on perd son arme. Il y en a d'autres qui peuvent avoir des balles explosives, une visée rayon X pour voir à travers les murs, plein de trucs. Et en plus du coup des armes, il y a aussi des gadgets. Parce que faut quand même être un peu dans de l'espionnage, le côté agent secret qui ressort. Et donc ça se fait beaucoup avec les gadgets qui vont nous aider à accomplir les objectifs. Donc chaque niveau, on le démarre avec un équipement bien précis, tant en termes d'armes que de gadgets. Et on peut en acquérir plus en tuant des ennemis ou en les trouvant dans le niveau. Donc par gadget, par exemple, on a une caméra espion qu'on peut contrôler à distance pour prendre des photos, ce qu'on voit là. Il y a aussi des versions qui sont explosives, on peut faire exploser la caméra espion qu'on déplace. Il y en a avec des fléchettes endormissantes, mais il n'y en a que 6, donc il faut bien les utiliser et se dire quels ennemis, à quel moment on va les endormir. Après, il y a des scanners à rayon X pour détecter des passages secrets qu'on va pouvoir faire exploser avec des explosifs, détecter des couloirs, des ennemis. Il y a des mines CME qui permettent de couper les sécurités pour empêcher qu'il y ait des ennemis qui arrivent en plus, etc. et plein d'autres trucs pour avancer justement dans les différents objectifs, télécharger des données secrètes, ce genre de choses.
C'est trop stylé, hein, vraiment. Le... Moi, à chaque fois, je vois l'effet là de... Je sais pas c'est quoi, le X-ray, je crois.
Ouais, c'est le X-ray, ça. Il est vraiment trippy.
C'est trop beau, en fait.
Mais plus tard dans le jeu, il y a une arme extraterrestre qui a un mode X-ray. Et quand tu tires avec le mode X-ray, la balle traverse les murs. Comme ce que tu vois. Et du coup, tu peux one-shotter n'importe qui à n'importe quelle distance dans le niveau. Mais c'est juste, c'est extrêmement bizarre, la vision. Donc, c'est très difficile à faire.
Cool. Littéralement un wall-hack, quoi. Genre...
Mais oui, c'est ça. Mais juste, la vision est trop particulière. Donc, c'est balancé par ça. Du coup, la difficulté, comment c'est géré dans ce jeu ? C'est un peu le même système que dans GoldenEye, c'est-à-dire qu'il y a trois options de difficulté pour chaque niveau. Donc tu as, là les noms ont changé, c'est Agent, Spécial Agent et Perfect Agent, ou Perfect Agent c'est le plus dur. Du coup, Agent c'est assez facile, vraiment on peut foncer dans le tas, on n'a pas beaucoup d'objectifs à faire, on peut un peu bourriner avec nos flingues, c'est le mode journaliste. Perfect Agent, là c'est le mode Hardcore Gamer, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Et vraiment se mettre dans la peau d'une agent secrète et faire les choses bien, quoi. Mais du coup, je vais prendre un peu l'exemple du premier niveau quand je vais expliquer qu'est-ce qui change, parce qu'il y a pas mal de choses. Parce que du coup, le jeu, il se contente pas de rendre les ennemis plus dangereux par leur nombre, leur santé, leur visée, les dégâts qu'ils infligent, les munitions réduites. Bon, ça, il le fait. Mais il n'y a pas que ça. En fait, le level design lui-même, donc chaque petit monde évolue, entre les difficultés. Donc là, dans le premier niveau, par exemple, alors qu'au début, on avait juste à s'infiltrer tout en bas de l'immeuble et trouver un ascenseur secret, là, on se rend compte, dès le début du niveau, en mode Perfect Agent, donc la difficulté la plus dure, il y a des caméras qui n'étaient pas là avant. Donc si on les détruit pas précautionneusement, elles vont nous voir, ça va alerter des gardes en plus qui vont arriver, et donc ça va être encore plus difficile puisqu'ils sont déjà boostés de base avec tout ce qu'on a dit avant. Donc là, il faut vraiment avoir une approche qui est beaucoup plus soignée de sa mission, en fait. Ça nous pousse à jouer beaucoup plus RP, finalement, agent secrète. Après, il y a plein d'autres choses qui changent. Donc, il y a l'équipement de départ aussi qui est altéré, parce que les changements principaux de la difficulté, c'est qu'il y a plus d'objectifs à accomplir dans chaque niveau. C'est vraiment le truc principal qui change. Donc ça va se refléter dans le level design et dans les gadgets qu'on a de départ. Donc là, par exemple, on a une mine ECM qu'on va devoir lancer sur un PC qui va permettre de désactiver la sécurité temporairement. Et ça fait partie des objectifs de la map. Après, dans notre niveau, il y a plein d'autres choses qui apparaissent. Donc on peut voir, par exemple, des tourelles qu'il va falloir prendre soin de détruire. Donc on ne peut pas rusher parce que si on se retrouve entre les tourelles et les ennemis, c'est compliqué. Il y a des sécurités laser qu'on peut soit esquiver quand les lasers ils commencent à défaillir, soit il faut trouver un moyen de les désactiver complètement. Mais du coup, c'est compliqué. Pareil, il faut prendre le temps et faire les choses bien, quoi. Après, il y a plein d'autres événements aussi, même des NPC, des nouveaux dialogues qui peuvent arriver. Typiquement, il y a un niveau dans celui-là où avant, il y avait une porte fermée. Mais en difficulté Perfect Agent, il y a un informaticien qui va en sortir.
Parce que là, dans la vidéo, là dans le footage... Et toi qui joues, et t'es en train de tabasser des femmes, là.
Je donne des énormes coups de crosse à des meufs. Mais c'est ok parce qu'elles sont bourgeoises à la tête d'une méga corporation.
Jeu. C'est ok parce qu'elles sont bourgeoises.
Ah, ok.
Ouais.
Ah, wow. Toi, tu soutiens la bière contre les fascistes, quoi.
Non,
t'es
non,
pas,
non,
t'es
oui.
pas
attends,
Team
attends,
White Femme,
mais
quoi.
Mais l'extra,
quoi.
Après, okay. L'extra okay. Après, on menace à l'informaticien. Donc, c'est un cadre homme cis blanc hétéro.
Oui, mais ça, c'est ok.
Donc informaticien, là, c'est un egg, hein. C'est un informaticien.
Mais finalement, tout le monde en prend pour son grade.
Plus en cybersec, peut-être c'est un furry aussi. Peut-être il est full marginalisé, tu vois. Enfin.
Non, très bien ton jeu.
Ouais, vas-y. Hein.
Mais du coup, ouais, autre truc qui change dans ce niveau, c'est que justement, il y a un moment, il y a une porte qui était fermée dans la difficulté faible et en Perfect Agent. On a un informaticien qui sort d'une porte et on peut le prendre en otage pour lui faire déverrouiller un PC. Et ensuite, il faut l'assommer parce que sinon, il en profite pour appeler la sécurité avec. Et du coup, une fois que ce PC est déverrouillé, on peut télécharger des données. Et ça nous permet de remplir un autre objectif de la mission. Mais il y a plein de petits secrets sur l'exploration des niveaux. Typiquement, si jamais on le tient pas bien en otage et qu'on le surveille pas, le mec, il va juste se barrer et courir à l'autre bout de l'immeuble, à un autre étage, et il va ouvrir une porte qu'on pouvait pas ouvrir nous-mêmes. Et dedans, il y a une arme secrète qui se transforme en tourelle quand on la lance. Ça peut être bien pratique.
Ouais, t'as vraiment les difficultés qui changent vraiment le gameplay du début à la fin, quoi.
Bah, c'est ça. Et Du coup, il y a aussi un truc que je trouve super stylé, c'est dans le troisième niveau, donc c'est toujours cet immeuble. C'est dans le premier niveau, on s'infiltre, dans le deuxième, on explore des laboratoires, et dans le troisième, on s'exfiltre. Donc là, il faut remonter l'immeuble dans le premier niveau. Et typiquement, en difficulté de base, donc Agent, il y a un lance-roquette qu'on peut trouver à un moment. Bon, il peut nous aider, mais il n'est pas plus utile que ça. Mais par contre, en difficulté Perfect Agent, il y a un hélicoptère qui, pendant toute la mission, nous mitraille dès qu'on est visible à partir d'une fenêtre de l'immeuble. Et donc, si on trouve le lance-roquette, bah là, en Perfect Agent, c'est très très important parce que sinon, c'est atrocement dur de descendre l'hélicoptère avec des tirs normaux. Donc, ça change vraiment le gameplay. Du coup, tout ce que ça apporte, les choix de difficulté dans Perfect Dark, en fait, le côté exigeant de la santé et l'organisation avec les niveaux, elle pousse à jouer de plus en plus précautionneusement, en fait. Et donc, on se sent vraiment impliqué, on essaye de faire les choses bien. Et même si jamais c'est la merde, et ben en fait, on peut pas se dire « Ah, je recommence », en fait, on essaye de faire avec la situation qui nous arrive, parce que si on meurt, on recommence le niveau intégralement. Donc en fait, plus on augmente la difficulté, plus on est poussé à jouer RP et à apprendre à bien jouer une agence secrète, en fait. Du coup, c'est hyper impliquant et ça donne lieu à plein de moments de tension qui marchent super bien dans le jeu.
Est-ce que ce serait pas un peu le Dark Souls des FPS, au final?
J'ai envie de mourir, par pitié.
Chaque niveau, du coup, c'est un petit monde interconnecté, finalement. Et il faut appréhender l'espace. Et c'est la connaissance de l'espace et du placement des ennemis qui nous permet de triompher aussi. Donc il y a un peu un côté d'Iron Retry, un côté très rejouable. D'ailleurs, sur la rejouabilité, il y a des cheats qu'on peut débloquer in-game. Ils nous disent terminer telle mission en telle difficulté en tel temps et obtenez tel cheat. Donc c'est genre une nouvelle arme secrète qu'on peut activer pour se marrer et tout ça. Mais qui permet pas de faire avancer l'histoire, je crois. C'est vraiment juste pour se marrer. Et donc pour débloquer ces cheats, il faut basiquement faire du speedrun. Et c'est aussi un des avantages du game design du jeu et du choix de difficulté, c'est que ça pousse vachement au speedrun, ça l'entrée accessible. C'est-à-dire qu'il y a un site, The Elite Rankings, qui note tous les speedruns par mission pour GoldenEye et Perfect Dark, puisqu'ils ont à peu près le même système. Et ça, c'était vraiment hyper connu, et c'était un des grands théâtres du speedrun à l'époque. Il y en a encore des records qui sont battus de temps en temps, mais bon, plus le temps passe, plus c'est rare. Il y a la chaîne YouTube Carl Jobs qui en parle quand il y a des records battus souvent.
Ah oui, comme tes records sur... Ouais.
C'est de Régalia. C'est de Régalia.
Ouais, comme tes records, ouais.
Ouais, j'ai le record du speedrun 100%. Enfin, je l'ai eu pendant une minute. Du coup, j'ai aussi le record du speedrun qui a été le record le moins longtemps.
Let's go.
I guess.
C'est pas mal comme record, ouais.
Non, parce que, il est dur à perdre, je pense, hein, quand même.
Ouais.
Après, moi, j'ai vu des trucs sur genre des jeux où t'as des records qui sont rentrés et t'as des gens qui sont champions du monde en quelques secondes, quoi. Juste le temps que l'autre personne rentre son temps.
Mais en fait, le lore, c'est qu'on discutait beaucoup des speedruns sur le serveur Discord du jeu. Parce que moi, j'ai vraiment accroché de la sortie du jeu, j'étais trop fan. Donc, je faisais du Annie % mais au bout d'un moment, j'arrivais plus à compète. Et je me suis dit, je vais être la première à faire le 100% parce que personne n'a soumis de run. Donc je tryhard ça dans mon coin sans rien dire à personne. Et une fois que j'ai un temps qui me plaît, je soumets la run sur speedrun.com et j'annonce sur le Discord. Et là, pendant que la run était en train d'être vérifiée, t'as un mec sur Discord qui a répondu, hey, moi je l'ai fait aussi en fait, j'ai juste parlé à personne.
Le mec il a fait, mais attends, mais t'es premier en fait. Le mec il avait, attends, mais t'es vraiment une merde, moi je l'ai fait en 2 minutes le jeu.
Bah du coup, comme je l'ai dit, il a soumis sa run et elle m'a battu immédiatement après, quoi.
Oh putain, c'est dur.
J'avais trop le seum. Mais j'étais fier de l'avoir fait à l'époque où le jeu n'avait pas de map.
Ouais, bref, ouais.
Bref. Du coup, pourquoi je ressors tout ça aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, il y a une trend des jeux rétro, les jeux PSX et tout, qui ressort. Notamment beaucoup de boomer shooters en mode Doom-like et tout ça. Et je pense que les apports du game design de Perfect Dark vont être récupérés, ou j'espère qu'ils seront récupérés en tout cas prochainement, parce qu'il y a plein de choses à en tirer et il y a aussi du très bon. Par exemple, on a vu avec Bloodborne PSX que le remake de Bloodborne, donc fait par Lilith, c'était pas qu'une question d'esthétique, mais aussi de gameplay, et aussi du X. Par exemple, elle reprend les menus à la Tomb Raider avec les gros items 3D qui tournent. Donc il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à ressortir, et moi j'attends de voir ça du coup avec la era Nintendo 64 et Perfect Dark. D'ailleurs il y a un jeu qui s'appelle Agent 64 Spies Never Die, Donc qui lui pour le coup est extrêmement inspiré de GoldenEye. Et donc on va voir au niveau gameplay ce que ça donne. J'ai pas pu voir mais il va sortir cette année. Du coup, est-ce que ça va reprendre un peu la structure du jeu au niveau du game design, comment ça va être fait? Moi, je suis très curieuse de voir ça. Parce que jusqu'ici, on a vu surtout des Doom-like, en fait. On n'a pas vu vraiment de jeux inspirés par la Nintendo 64 au niveau des FPS.
Let's go.
Du coup, voilà.
C'est cool que ça revienne un peu. Hein.
Bah ouais, moi, je suis très curieuse de voir ça.
Ouais. Donc, de toute façon, genre, culturellement, là, j'ai l'impression qu'il y a un retour des années 2000. Dans la musique, dans la mode, dans le jeu vidéo aussi. Moi, c'est cool, moi, ça me plaît.
Bah après, au bout d'un moment, chaque période rétro va avoir son petit moment de gloire aussi, j'imagine, donc ça va finir par y passer.
Trop hâte que la période rétro DS revienne et que je puisse enfin avoir un Picross 3D par pitié.
Ah non.
Allez.
Oh là là.
Du coup, dernier petit truc aussi, vu que je parle des jeux qui vont sortir, j'en profite. En 2020, il y a eu l'annonce d'un reboot de la série Perfect Dark, qui serait développé par The Initiative, donc un studio de Microsoft, qui a été fondé par des anciens qui ont travaillé sur le reboot de Tomb Raider en 2013. Par contre, il n'y a plus aucune nouvelle depuis 2020, depuis l'annonce.
Covid aide.
Je pense qu'il y a une certaine sauce. Et a priori, ils sont un peu en mode triple A tout ça, donc je ne suis pas sûr qu'ils reprennent vraiment la structure et le gameplay de Perfect Dark. Ça risque d'être très différent. Ça va peut-être être, je ne sais pas, proche d'un Titanfall, parce qu'apparemment, ils veulent mettre l'emphase sur des mécaniques de mouvement et tout ça.
Bah donc, si, bon, ça sort.
L'univers est assez stylé, donc moi, je suis quand même curieux de voir ce que ça donne après... Le successeur spirituel de Perfect Dark, je suis pas sûr que ça va être le reboot, mais voilà.
Quel hype, hein. Genre pour le coup,
si
moi,
ça sort.
Ouais, si ça sort. Non mais genre pour celui-là et pour Spice, tu vois. Genre pas, en tout cas le l'autre genre est cool, quoi. Ah ouais, mais ce qui est rigolo, c'est du coup quand tu parlais justement de l'impact de la difficulté sur les layouts des maps, etc. Ça m'a beaucoup rappelé Payday 2. Genre typiquement avec le truc que t'as une à 4 à 6 difficultés dans chaque map, hein, et que ce qui est trop cool, c'est que du coup, t'as la même map très petite, très resserrée, et très que tu apprends en jouant en facile, etc., avec des nouvelles contraintes qui arrivent de plus en plus difficiles. Typiquement, dans Payday 2, tu vas avoir les mêmes pièces, mais des fois, les portes vont être fermées, comme là, dans ce jeu-là, dans Perfect Dark, à difficulté élevée, ou par exemple, pareil, les caméras seront dans des caissons blindés. Tu ne pourras plus que le pirater, par exemple. Et ça, c'est vraiment trop cool, je trouve, comme design. Après, pour le coup, je dis ça, je dis que c'est trop cool, mais perso, je suis pas une. Je suis un peu allergique à tout ce qui est immersive Sims et tout. Ça me laisse trop une grande liberté d'approche et mon TDA m'empêche d'apprécier ce genre de jeu, type les Dishonored et tout.
Oui, il a le bandeau, le TDA, mais... quand même. Parce que moi, perso, ça me dérange pas.
Non, mais c'est pas, on n'a pas le même TDA.
Oui, oui.
Non, mais après, c'est juste que. Comment dire, après, moi,
toi, t'as le TDA bottom.
Après, je respecte de fou le game design et le level design de ces jeux-là. Tu vois, typiquement des jeux comme Deathloop, les joueurs canadiens, etc. Je trouve ça vraiment.
Mais justement, faudrait que tu fasses Deathloop pour de vrai un jour. Genre, Deathloop, c'est la bonne réponse à ce problème.
Bah, j'ai commencé et pareil, aussi, trop de trucs possibles à faire et j'ai fait flemme, je sais pas.
Ouais, mais tu le refais 20 000 fois, c'est à l'avantage. Hein.
Oui.
En tous les cas, t'es guidé un petit peu aussi.
Ouais, il y a vraiment ce truc de t'appréhendes ton environnement et plus tu le connais, plus tu peux faire de dingueries. Et pareil, plus tu connais aussi les gadgets et les modes secondaires des différentes armes, plus tu peux faire des nouveaux trucs un peu rigolos. Après, il y a peut-être des liens qui peuvent être intéressants à tisser vers l'immersive sim. On reste quand même surtout sur un FPS.
Genre, ce que tu décris, c'est quand même vachement proche de l'immersive sim, tu vois. Après, il n'y a pas le côté tout vraiment. Objectif secondaire, interconnecté au principal, etc. Tu vois.
T'as des objectifs à remplir, mais la mécanique que tu fais quand même 80% du temps, c'est viser, tirer, recharger. C'est.
Ah, putain, ça fait réfléchir.
Je me demande qui a dit ça.
Ça fait réfléchir.
Je me demande qui va aller niquer sa mère ce soir.